Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 19 septembre 2018. Les autorités nigériennes sont à la recherche du prêtre italien enlevé lundi.
Ils ont tiré à l'air. Maintenant qu'on a appris qu'ils sont rentrés aussi chez les sœurs. Et après, ils ont parti. Ils n'ont pas pris les sœurs. Ils ont parti seuls avec la moto. Et ils ont fui avec le père seulement.
Le témoignage d'un religieux. Élection en RDC. Publication de la liste définitive des candidats prévue ce mercredi. L'Union africaine exige des excuses du ministre italien Matteo Salvini suite à ses déclarations sur l'importation d'esclaves. États-Unis, Donald Trump a salué le travail des secours et promis l'aide fédérale aux régions ravagées par l'ouragan Florence. Ligue des champions. Les matchs à ne pas manquer ce soir. La Juve contre FC Valence et Real Madrid à Rome. Les autorités nigériennes ont engagé des recherches pour retrouver le prêtre italien Pierre Luigi Macciali, enlevé lundi dans le sud-ouest du pays par des hommes en moto. Le religieux travaillait à la paroisse de Bamwanga avec deux autres prêtres. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa a recueilli le témoignage du père John Arokiyadas.
Et entre 9h30 et 10h, il y avait du bruit chez le père. Donc, je n'ai pas soulevé pour aller voir parce que je pensais que les gens du village sont venus avec un gars qui est possédé parce qu'ils ont crié. C'est ça que j'ai pensé. Et après, le père aussi, il est sorti, il a ouvert la porte pour voir qui sont les gens. Et après, j'ai attendu aussi, le père, il a dit... Sors. Donc ça, j'ai confirmé que voilà, le père vraiment, il chasse le démon. Les gens commençaient à tirer le fusil à l'air. Donc il y avait du bruit, doum, doum. Juste 2 minutes, je me suis levé. Et après, notre cuisinière, il m'a appelé pour dire que, ah mon père, il ne faut pas allumer votre lampe chez vous, il ne faut pas sortir. Ah pourquoi ? J'ai demandé, il m'a dit, ah, il y avait les bandits chez vous. Les bandits ont enlevé le père.
Le ministère nigérien de la Santé a ordonné la fermeture de plusieurs centrales pharmaceutiques privées de Niamey pour cause de médicaments douteux ou périmés. 6 sociétés grossistes sont visées par la mesure de fermeture immédiate et 6 autres ont écopé de mise en demeure. Le ministère leur reproche également d'approvisionner des dépôts pharmaceutiques illégaux et de travailler avec des vendeurs ambulants. Encore des victimes en RDC où le naufrage d'une péniche surchargée a tué au moins 27 personnes sur un affluent du fleuve Congo dans le nord-ouest. Le drame est intervenu dans la nuit de lundi à mardi à cause de l'effondrement du toit de cette baleinière encombrée de marchandises. Selon un survivant, parmi une trentaine de rescapés, 27 corps ont été retirés des eaux de la rivière Mongala mardi selon les autorités de la province de Mongala, précisant que les secours tentent de retrouver d'autres corps encore sous les eaux. En République démocratique du Congo, publication prévue ce mercredi de la liste définitive des candidats qui doit notamment officialiser l'exclusion des opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. 2 autres opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, et le dauphin du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, sont les principales figures de la liste d'une vingtaine de noms que la commission électorale doit publier ce jour. La campagne électorale débutera le 22 novembre pour les élections du 23 décembre. Au Cameroun, 5 candidats à la présidentielle du 7 octobre ont accusé les médias d'État de privilégier les informations relatives au président sortant Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans. Dans un communiqué, ses opposants se disent indignés du traitement biaisé volontaire et volontairement déséquilibré des activités des personnalités en lice et exigent le rétablissement de l'équité et de l'égalité. Le texte est signé par le SDF, le MRC de Maurice Kamto, Maître Akeremouna et les 2 jeunes candidats Cabral Libi et Serge Espoir Matomba. Les propos du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini sur l'importation d'esclaves africains continuent de défrayer la chronique. La commission de l'Union africaine exige que le politicien d'extrême droite retire ses déclarations désobligeantes. John Lindon.
Dans un communiqué rendu public hier soir, la Commission de l'Union africaine s'est dit effarée par les commentaires formulés par Matteo Salvini durant une récente conférence à Vienne. Au cours de celle-ci, le ministre italien de l'Intérieur avait en effet comparé les migrants africains à des esclaves. Dans une vidéo diffusée le 14 septembre par l'entourage de M. Salvini, on voit ce dernier prendre la parole à une réunion des ministres européens de l'Intérieur pour dénoncer l'idée apparemment formulée auparavant par le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, selon laquelle l'Europe vieillissante a besoin d'immigrés. En Italie, nous ressentons l'exigence d'aider nos enfants à faire d'autres enfants et pas avoir de nouveaux esclaves pour remplacer les enfants que nous ne faisons plus, explique l'homme fort du gouvernement italien, après quoi s'en est suivi un vif échange entre les deux ministres. Dans le débat d'un engagement constructif dans le débat sur la migration entre l'Europe et l'Afrique, l'Union africaine exige donc que Matteo Salvini retire ses déclarations désobligeantes. L'intéressé ne s'est pas pour l'heure plié à cette demande.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé qu'il comptait effectuer une visite historique à Séoul à l'issue d'un sommet à Pyongyang avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Yakuba Ouedraogo nous en dit plus.
Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est rendu dans la capitale nord-coréenne pour tenter de sortir de l'impasse les négociations sur la dénucléarisation du Nord. Il a indiqué que la visite de son homologue Kim Jong-un pourrait intervenir cette année, ajoutant que la Corée du Nord a accepté, je cite, de fermer de façon permanente son site de test de moteurs de missiles. Le président nord-coréen a aussi affirmé que son pays pourrait fermer son complexe nucléaire de Yongbyon si Washington prenait des mesures correspondantes. M. Moon a entamé hier une visite de 3 jours à Pyongyang pour son 3e sommet depuis le début de l'année avec Kim Jong-un. Lors d'une rencontre historique en juin entre le dirigeant nord-coréen et le président Donald Trump à Singapour, Kim Jong-un a réitéré son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Washington exige une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée. De son côté, Pyongyang veut une déclaration officielle des États-Unis pour marquer la fin de la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953 sur un simple armistice. Le Nord accuse les Américains de vouloir un désarmement unilatéral sans faire de concessions et sans alléger la pression ou les sanctions.
Le président américain Donald Trump a salué le travail des secours et promis une aide fédérale aux régions du sud-est ravagées par l'ouragan Florence. Le dernier bilan fait état de 36 morts. Abdourahmane Dia.
Donald Trump a atterri sur la base des Marines de Cherry Point en Caroline du Nord, à une trentaine de kilomètres de la côte où l'ouragan a touché terre vendredi dernier. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie ont été frappées par Florence qui a dévasté de nombreuses zones et provoqué des inondations. L'ouragan a fait plusieurs victimes, dont des enfants, et causé des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars. Les inondations sont historiques, difficiles à croire, a souligné Donald Trump en rencontrant les responsables des opérations de secours sur la base. Florence est l'un des ouragans les plus puissants et dévastateurs ayant frappé le pays, a-t-il rappelé, saluant le travail de plus de 20 000 personnels fédéraux et militaires, ainsi que les volontaires ayant participé aux opérations de secours. Dans les deux États des Carolines, les rivières ont débordé et pour certaines n'avaient pas encore atteint leur pic de crue.
Les discussions sur l'ALENA ont repris ce mercredi à Washington entre le Canada et les États-Unis. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a envoyé de nouveau sa ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, négocier avec le représentant américain au commerce Robert Lighthizer pour la première session de discussion en personne depuis 8 jours. À Washington, Madame Freeland a souligné le travail intense des négociateurs pendant toute la semaine écoulée et même la nuit dernière. La première ministre britannique Theresa May à Salzbourg a dit que c'était au tour des Européens de faire évoluer leur position pour débloquer les négociations du Brexit, alors que l'Union européenne appelait Londres à faire des efforts. Si nous voulons parvenir à une conclusion réussie, alors tout comme le Royaume-Uni a fait évoluer sa position, l'Union européenne devra aussi faire évoluer sa position, a-t-elle déclaré devant la presse avant un dîner avec ses homologues en Autriche. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
La Banque centrale sud-africaine, la SARB, en plein dilemme. Doit-elle remonter ses taux pour contenir l'inflation alors que son économie est tombée en récession? En tout cas, demain, la SARB a rendez-vous avec les investisseurs. Elle doit en effet se prononcer sur une éventuelle hausse des taux alors que sa devise est mise à mal sur les marchés depuis quelques semaines, moins de 9,9% depuis le 1er août. La hausse du dollar a mis la pression sur les devises émergentes et donc sur les banques centrales de divers pays, dont l'Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, le gouvernement propose de supprimer la représentation du secteur privé au sein du conseil d'administration du Conseil Café Cacao à partir de l'année prochaine. Les autorités ivoiriennes trouvent les intérêts privés trop divisés et craignent qu'ils entravent les réformes d'harmonisation du système de mise en vente du cacao avec le Ghana. Et pour terminer, la Tunisie qui s'attend à une hausse du service de sa dette qui devrait atteindre un niveau record de plus de 9 milliards de dinars, soit 3,24 milliards de dollars. L'information a été donnée par le ministre des Finances, Rida Chalgoum. Il faut dire que l'économie tunisienne a traversé une période difficile. Les finances du pays nord-africain peinent à se relever de la crise causée par le renversement de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali en 2011, suivi des troubles à l'origine de la montée du chômage et de l'inflation.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suite de la Ligue des Champions ce soir.
Au programme, le Shakhtar Donetsk contre Hoffenheim, l'Ajax Amsterdam contre l'AEK Athènes, le Benfica qui accueille le Bayern Munich, Lyon en déplacement sur la pelouse de Manchester City, le Victoria de Plzeň contre le CSKA Moscou, les Young Boys de Berne qui accueillent Manchester United. Enfin, les deux chocs de cette soirée, le FC Valence face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo et le Real Madrid, triple tenant du titre, qui affronte l'AS Rome.
Le FC Barcelone a frappé fort pour son premier match de Ligue des Champions hier soir.
Victoire convaincante du FC Barcelone 4-0 contre le PSV Eindhoven avec un triplé de Lionel Messi dont un premier coup franc magnifique. Et en deuxième mi-temps, Dembélé qui a marqué pour les Blaugrana. L'Inter Milan a souffert mais s'est imposé 2-1 contre Tottenham. Et puis revenu de 2-0 à 2 partout, le Paris Saint-Germain s'est incliné au bout du temps additionnel à Liverpool. C'est Firmino qui était incertain avant la rencontre qui a crucifié les derniers espoirs parisiens. Galatasaray a profité de la réception du Lokomotiv Moscou pour l'emporter 3-0. Le méconnu capverdien Gary Mendes Rodriguez a ouvert le score. Seul ombre au tableau, l'expulsion du Sénégalais Badou Ndiaye. Iker Casillas, le gardien espagnol du FC Porto et le premier joueur, a joué 20 Ligues des Champions. Ça n'a pas suffi pour que son équipe l'emporte. Match nul, un but partout entre Porto et Schalke 04. Le Borussia Dortmund a fait le travail en s'imposant à Bruges, un but à zéro. L'AS Monaco s'est incliné à domicile contre l'un des favoris, l'Atlético Madrid, qui l'emporte 2-1. Enfin, Naples a largement dominé l'Étoile Rouge de Belgrade, mais match nul 0-0.
Et la phase de poule de la Ligue Europa démarre demain.
Marseille, finaliste l'an dernier, reçoit l'Eintracht Francfort dans un vélodrome à huis clos, une décision de l'UEFA liée à divers incidents la saison dernière. Le favori de cette nouvelle édition, Chelsea, sera sur le terrain des Grecs du PAOK. Arsenal, désormais dirigé par Unai Emery, reçoit les Ukrainiens du FC Vorskla, le Milan AC de Gennaro Gattuso, qui va jouer son premier match contre le petit poussé Dudelange, le premier club luxembourgeois qualifié en Coupe d'Europe. A noter également le Ludogorets face au Bayer Leverkusen ou encore Leipzig contre Salzbourg.
Retour du capitaine dans le groupe de Mazembe.
Mise à l'écart avant le match aller sur le terrain du Primeiro de Agosto en Ligue africaine des champions, Rainford Kabala a réintégré le groupe du tout-puissant Mazembe avant le match retour vendredi à Kamalondo. Les Corbeaux ont besoin d'une victoire pour atteindre les demi-finales.
Pour terminer en tennis, Rafael Nadal est blessé.
Le numéro 1 mondial touché au genou droit, une blessure qu'il avait contraint à abandonner en demi-finale de l'US Open, puis à renoncer à la demi-finale de la Coupe Davis face à la France. Eh bien, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour les tournois de Pékin et Shanghai en octobre prochain. Ce double forfait menace son rang de numéro 1 mondial. Novak Djokovic pourrait lui ravir sa place de numéro 1 s'il remporte le tournoi de Shanghai.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. La situation continue de se dégrader dans les zones anglophones du Cameroun. Amnesty International fait état de 400 civils tués depuis le début de l'année par les forces de sécurité et les séparatistes et de plus de 160 membres des forces de sécurité exécutés en 2 ans. Les autorités ont soumis tout déplacement dans ces zones à une autorisation préalable. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Bouéa Paul Abiné Aya, président de la fondation Aya, qui soutient des réfugiés et déplacés de la crise anglophone.
Ça met un goût très amer à la gauche. Les deux, ça donne un signal très fort à tous ceux qui sont de bonne foi, les modérés, les patriotes, comme on les appelle. Le gouvernement ne veut pas résoudre la crise. Le gouvernement préfère privilégier la force. La force, le visa s'impose lorsqu'il y a deux pays. Lorsque deux pays sont en jeu, le visa s'impose. Si nous sommes en train de critiquer les séparatistes parce qu'ils veulent à tout prix couper le pays en deux, pourquoi imposer le visa dans un pays entre deux peuples alors que le pays, selon vous, indivisible.
Les autorités disent que c'est pour lutter contre les groupes armés qui sévissent là-bas.
Pas du tout. Je vous parle comme quelqu'un qui fait dans l'humanitaire. Je suis sur le terrain 24 sur 7. Nous pouvons établir les responsabilités de deux côtés. Là, c'est légitime de dire qu'il y a des responsabilités partagées de deux côtés, les deux, les radicaux et le gouvernement de l'autre côté. Mais qui a la légitimité du peuple? C'est le gouvernement. Si nous sommes dans ce désordre total parce que le gouvernement a échoué, et le gouvernement préfère rester consistant dans l'échec. Tel est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Le peuple entier, tous les Camerounais dans leur ensemble, réclament la libération de tous ceux qui sont en détention et que l'exercice des forces de l'ordre cesse. Comment expliquez-vous qu'un homme en pays tire sur un civil non armé, il ne tire même pas sur lui avec les balles blanches, il tire intention de le tuer.
Des leaders religieux chrétiens et musulmans ont appelé à l'organisation les 21 et 22 novembre d'une conférence générale anglophone à Boya. Comment cette nouvelle est-elle perçue là-bas?
Bon, ça a été bien reçu par une grande partie de la population anglophone. Comme je vous disais tantôt, les autorités préfèrent rester consistantes dans de mauvaises décisions. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas cette conférence, soi-disant conférence, si je peux emprunter un propos, et que ça ne pourrait pas avoir lieu. Ça a commencé avec le maire de Bouéa. En fait, ils prônent les radicaux indirectement. Après, les ministres ont relayé les informations. Donc, ça pourrait avoir lieu. Ça pourrait, à mon sens, à mon avis, contribuer à l'apaisement des tensions. Parce que, selon moi, nous avons déjà franchi la ligne rouge.
Paul Abiné Aya était joint à Bouéa, au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, les habitants de la ville de Kaïda, Sebo, près d'Abuja, expriment leur ras-le-bol sur leurs conditions de vie. La commune de 200 000 habitants se dit privée d'accès aux soins, à l'eau potable et aux routes. Pourtant, le gouvernement fédéral a prévu jusqu'à 180 millions de dollars pour les soins de santé primaire dans le budget 2018. En outre, l'appui de la Banque mondiale pour la même période s'élève à 20 millions de dollars, tandis que la fondation Bill et Melinda Gates complète le tout avec 2 millions de dollars. Notre correspondant Gilbert Tamba s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Âgée de 45 ans, Aïchatou vit à Kaïda Sabo, à quelques kilomètres d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Elle dit avoir des problèmes de vision et à chaque fois elle fait plusieurs heures à moto pour se rendre chez son médecin traitant dans une autre communauté à cause du manque de centres de santé dans son village. Cela fait déjà 4 ans que les autorités ont commencé la construction d'un centre de santé, mais les travaux ne sont toujours pas achevés.
C'est triste pour moi de voyager chaque fois jusqu'à un autre village pour recevoir des soins. Je dépense tout le temps de l'argent pour payer mon transport vers les autres villages voisins comme Dobi et Gwagwalada.
Elle n'est pas la seule à vivre ces calvaires à Kaïda Sabo. Les femmes enceintes dans ce district sont obligées de voyager pendant plus de 3 heures parfois pour atteindre un centre hospitalier. Lors des accouchements, certaines développent de graves complications avant d'arriver au centre de santé. D'autres perdent leurs enfants pendant l'accouchement. Ngassi Obimnebo dirige l'ONG Pitch Aid Medical Initiative qui était venue ce jour et pour la première fois offrir des services de soins de santé primaires aux femmes de Kaïda Sabo.
And I found out that there are two major reasons why the women were dying.
Nous avons constaté qu'il y avait deux causes principales pour les décès des femmes à l'accouchement. La première, les femmes saignent beaucoup durant et après l'accouchement. Et la seconde raison, ce sont les infections. Voilà ce qui nous oblige à changer notre priorité des enfants vers leur maman.
Le manque de soins de santé primaire n'est pas le seul problème de cette communauté. Il n'y a pas de route pour accéder à Kaïda Sabo et pas d'école secondaire. La communauté est pourtant entièrement sous l'autorité du ministère en charge du développement du territoire d'Abuja. Halilou Ayali est le leader de la jeunesse de la communauté. Il se dit satisfait de la visite de l'ONG.
Nous disons merci à Dieu pour ces missionnaires qui sont venus nous assister avec des médicaments qui nous soulagent un peu. Mais tous ces autres politiciens qui viennent ne font rien pour nous.
Comme à Kaïda Sabo, il existe d'autres communautés dans les mêmes conditions aux alentours d'Abuja. Les femmes, principales victimes des difficultés auxquelles le village est confronté, menacent de ne pas participer aux élections de février prochain à cause des promesses non tenues des politiciens qui viennent seulement dans leur communauté en période de campagne électorale. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, la grève persiste dans le secteur public. Les syndicats des fonctionnaires poursuivent leur lutte pour faire fléchir le gouvernement alors que la rentrée scolaire est fixée au 1er octobre. Les élèves des établissements publics seront encore les plus pénalisés pour l'année 2018-2019. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
La dernière rencontre entre les responsables des organisations syndicales et les membres du gouvernement a accouché encore d'une souris. À entendre les syndicalistes, des concessions ont été faites du côté des travailleurs pour permettre de démarrer la rentrée scolaire 2018-2019, mais le gouvernement reste toujours indifférent à leurs propositions. Pour Barka Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, les autres points peuvent attendre, mais au moins que le gouvernement rembourse aux travailleurs les augmentations générales spécifiques coupées depuis janvier 2018.
Si le gouvernement passe au rétablissement de ces AGS, les travailleurs pourront reprendre le travail et continuer les négociations sur les autres points qui sont restés en suspens. Par exemple, le gel des effets financiers, des augmentations et des reclassements, le frais de transport, la loi 32, etc. Malheureusement, nous n'avons obtenu rien de concret. Les travailleurs ont décidé de poursuivre la grève.
Déjà, le gouvernement s'apprête à lancer la rentrée scolaire 2018-2019 le 1er octobre prochain. La validation de l'année ne se résume pas seulement sur l'organisation du baccalauréat et du brevet d'études fondamentales, mais il faut organiser des scénarios pour permettre aux élèves de classe intermédiaire de passer en classe supérieure avant de parler de la rentrée nouvelle, estime Gartoïde Blaise, secrétaire général du CED pour la commune de N'Djamena.
Pour ce passage-là, on a besoin d'avoir au moins 90 jours encore de cours pour compléter les 90 jours d'avant. En ce moment, nous pouvons donc parler d'une autre année scolaire qu'on s'entende là-dessus. Nous sommes méprisés et c'est en ce moment qu'on parle de l'école. De quelle école on veut parler?
Pour le délégué de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena, Dungus Abraï, cette question n'est plus d'actualité.
Les classes intermédiaires, on a essayé de voir par-ci, par-là et tous les établissements ont déjà partagé les carnets à leurs élèves. Donc, je me demande de quel bulletin dont il est question.
Les élèves, premières victimes de ce bras de fer, gouvernement syndicat se tourne vers le Dieu créateur, d'où leur viendra le secours.
L'année passée, on a fini avec seulement 2 bulletins et franchement, ça ne nous arrange pas. Je prie tous les jours pour que Dieu aide le président à résoudre le problème qu'il y a.
Je vois ce que le président prie les enseignants pour qu'on reprenne les cours dans les bonnes conditions.
Les autorités, s'il peut faire quelque chose pour les jeunes, parce que nous les jeunes, maintenant, on est énervés.
C'est le cri d'une jeunesse tchadienne désemparée et qui voit son avenir hypothéqué. Même les réseaux sociaux qui permettent à cette jeunesse de se cultiver et d'être en contact avec le monde extérieur sont censurés depuis 6 mois sans aucune explication. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, on fait le point sur le braconnage en Afrique. Le monde connaît une recrudescence du commerce illégal des espèces sauvages et l'Afrique est directement concernée. Alors que le continent concentre ses efforts sur la croissance économique et la stabilisation politique, la disparition des lions, des rhinocéros ou des éléphants passe inaperçue. Le phénomène est d'autant plus difficile à endiguer qu'il rapporte gros. Sur la liste des activités criminelles transnationales les plus lucratives, le trafic des espèces sauvages occupe la 4e place. À qui profite le crime? Quelles sont les difficultés rencontrées par les autorités qui traquent les braconniers? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Au Kenya, une nouvelle application en est à son 4e mois d'exploitation à Nairobi. Dénommée Biba Biba, elle a été créée par l'association des conducteurs de taxi et leurs partenaires. L'objectif est de concurrencer Uber et d'autres applications populaires. Plus de précisions dans un reportage de Raël Ombuor, relaté par Irénée Herman Ungbo.
Difficile de conduire un taxi à Nairobi, la capitale kényane, ces jours-ci. Les chauffeurs se plaignent de nouvelles entreprises de transport qui utilisent des applications numériques pour communiquer avec leurs clients. C'est donc pour répondre à cette concurrence que les conducteurs de taxis traditionnels se sont mobilisés pour mettre en œuvre leur propre application Biba Biba. Simon Djougounan dirige un groupe de représentants des conducteurs de taxi.
Nous nous sommes rendus compte en décembre dernier que nous étions plus en train de nous plaindre que de chercher des solutions. On s'est donc réunis. Certains parmi nous étaient très actifs en ligne pour sensibiliser les autres. Et c'est ainsi que nous avions réalisé qu'on ne pouvait plus continuer à se plaindre et qu'il fallait agir.
On reproche aux services de transport étrangers de fixer des tarifs peu élevés à leurs clients tout en imposant des commissions élevées aux conducteurs. Uber facture une commission de 25% aux conducteurs et les applications comme Taxify et autres entre 15 et 20%. Biba Biba fixe sa commission à 15%, mais le chauffeur et le propriétaire du véhicule peuvent conserver une partie de ses frais. De plus, les tarifs sur Biba Biba sont légèrement plus élevés, ce qui permet aux conducteurs d'avoir plus d'argent. Olé Lelei est chauffeur, utilisateur de l'application Biba Biba.
Biba Biba favorable rate for drivers.
Biba Biba a des taux avantageux pour les conducteurs et elle tient également compte des clients. Pendant qu'elle s'assure du bien-être des conducteurs que nous sommes, nos intérêts sont aussi protégés par cette association appelée DIPAC et qui est sous Biba Biba.
Pour Simon Djougounan, l'autonomisation économique est évidemment une priorité pour les membres de son groupe.
Biba Biba ne fait pas de la bureaucratie en cas de problème. Il suffit d'appeler les parties prenantes, nos chauffeurs et partenaires, pour qu'ils puissent prendre une décision immédiatement mise en œuvre. Dans d'autres sociétés, vous entendez parfois dire qu'ils veulent appeler quelque part en dehors du pays avant de prendre une décision. Donc nous n'avons pas besoin de ces bureaucraties.
Shivashi Muleji, directeur régional de Taxify, défend la tarification de son entreprise.
Le simple fait que nous prenions une commission inférieure montre déjà que les revenus des conducteurs constituent un principe très fort dans notre mode de fonctionnement. Maintenant, il faut sécuriser l'emploi et nous avons une équipe qui prend en charge les chauffeurs, les former et les aider lorsqu'il y a des problèmes à résoudre.
Au total, 3000 taxis sont actuellement inscrits sur la plateforme Biba Biba, soit environ la moitié des membres de l'Association des conducteurs de taxis du Kenya.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Cheikh Thierrot, à la console Joe Gill, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu.